Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, où l'agriculture racontée par ceux qui la font. Pour cette troisième émission, Pierre-Yves, installé en maraîchage bio, nous reçoit dans sa ferme, au bord de la départementale 54, au hameau de Savignac, sur la commune de Sainte-Afrique. Donc, visite de l'exploitation. Donc, toi, tu es en maraîchage.
Déjà, juste, moi, je corrige. Je n'ai pas d'exploitation.
Ah.
J'aime pas ce terme d'exploiter.
Ah, t'exploites voilà. Pas la terre.
Non, c'est pas, c'est pas l'impression que j'ai. J'ai l'impression d'essayer de la comprendre, de l'utiliser à la rigueur, mais de lui rendre aussi. Donc, voilà, le terme d'exploitation,
c'est un truc qui me plaît pas. Ah, d'accord.
Voilà, ma petite ferme, à la rigueur, avec mes quelques volailles, mes quelques animaux, machin, et mon grand jardin, mais... Cette zone-là de la plaine est une zone très très sablonneuse, avec quand même plus de 80% de sable.
D'accord, pour ça tes carottes, elles poussent bien.
Ouais, les carottes poussent plutôt bien. Mais seulement 2% d'argile, exposée bien au sud, bien ouvert d'est en ouest.
Du coup, ça sèche vite, non, peut-être?
Du coup, il y a avantages et inconvénients. Avantage, c'est que le sol au printemps se réchauffe très vite, donc j'ai de l'avance sur tous les collègues du coin.
D'accord.
Là. Et mon sol, même s'il fait 50 mm, 3 jours après, je peux passer en outil. Mais... quand il fait 50 mm chez les copains, ils attendent un mois et demi. Quoi. Donc là, ça, c'est mes avantages. Les inconvénients majeurs, c'est que ça ne retient pas ni l'eau ni les nutriments. Donc je suis obligé d'adapter mon irrigation et ma manière de distribuer des nutriments de manière spécifique à ce sol. Quoi.
Et je vois, tu as un petit tunnel plus un grand tunnel.
Voilà.
Ça, c'est plus pour faire germer, j'imagine.
C'est la serre à plan.
La
pouponnière. Ou pépinière.
Mais
oui, la serre à plan. Moi, je fais tous mes plans, sauf exception. J'achète quelques plans. Là, cette année, j'ai acheté des patates douces pour la première fois. L'année prochaine, je les produirai parce qu'en fait, j'ai essayé, c'est très facile. Et sinon, je produis tous mes plans.
D'accord.
Et du coup, faire ces semences, bah là, tu vois, il y a des blettes en train de monter à graines. Donc des blettes qui ont été plantées au mois de mars l'année dernière. On est en juillet, je vais enfin récolter la graine dessus. Il y a de la ciboulette au pied, donc ça, c'est des graines que je vais faire.
Mm-hmm.
Je vais faire un peu de tomates. Mais pour l'instant, je peux pas faire tout. Et surtout qu'il y a certaines semences qui sont plus difficiles à faire que d'autres, plus techniques.
Ouais.
Et que si je me rate et que j'ai pas le résultat que je veux que je sème l'année d'après, moi, au niveau maraîchage, je me tire une balle dans le pied.
Ouais.
Donc il y a des semenciers qui font bien le boulot. Pour l'instant, SM Bio, agro semences essentiellement.
D'accord.
Ce sont des entreprises familiales et qui eux-mêmes distribuent des semences de gros semenciers, de gros autres tenteurs, type Gauthier, Volt. Et je travaille essentiellement avec des variétés anciennes.
Tu me fais visiter un petit
peu. Voilà, après, bah, écoute, là, en gros, c'est pas une exploitation énorme, justement. C'est une petite ferme. Alors, ça, c'est ici un corps de ferme Pierre Rouge de 1873. Qui était une petite ferme, effectivement, mais il y avait, je crois, d'après ce qu'on m'a dit le voisinage, environ 25 hectares de terre qui allait avec cette ferme.
Ah ouais.
Donc là, tout c'était en face, là, ils allaient jusqu'à la rivière.
Ah,
c'était, voilà. Donc nous, quand on a racheté en 2012, il restait 6600 m² qu'il a fallu demander, c'était pas gagné dès qu'il soit avec.
D'accord.
Mais c'était impératif pour nous, on n'achetait pas s'il n'y avait pas de terrain.
Un peu plus d'un demi-hectare.
Donc voilà, là, sur le champ de maraîchage lui-même, fait 6600. La totale de la superficie, là, c'est 7700.
D'accord.
Voilà, donc on est sur moins d'un hectare.
Ouais. On dit que c'est exigeant, non, les céréales pour le sol et tout.
Non. Non, sinon ça ne pousserait pas sur le cos.
Oui, remarque, tu me diras.
Essaye de faire des salades sur le cos, puis essaye de faire la céréale, tu verras que vaut mieux faire les céréales.
Ah ouais, d'accord.
Non, c'est... Par contre, les légumes sont exigeants.
Ouais. Ouais.
C'est là les cultures les plus exigeantes de toute l'agriculture, ce sont les légumes.
D'accord.
En éléments nutritifs, en eau,
voilà,
et en temps de main d'œuvre. Qu'on soit en bio ou pas, le maraîchage, au sein de l'ensemble des métiers de l'agriculture, c'est ce qui exige le plus du sol, donc en fertilité, en eau, en main d'œuvre, j'aime bien. Et du coup, après, moi, je suis en maraîchage bio diversifié, avec plein de pistes qui m'intéressent, mais je me revendique pas d'une école ou d'une autre, mais après, toutes les différentes écoles de permaculture m'intéressent depuis 15 ans. Voilà, il y a plein de réseaux maraîchage sol vivant et compagnie. Enfin, il y a énormément de choses qui sont intéressantes et je prends ce qui m'intéresse partout où je le vois. Voilà.
Ouais.
Et je fais mes propres essais ici.
Tu fais avec ton éthique à toi, quelque part essayer de faire mieux, quoi.
Oui, bien sûr.
Pour donner les meilleurs produits.
Ouais, être le plus rentable possible, parce que c'est pas un gros mot. Et quand je pense rentabilité, c'est être bien bio aussi.
Oui,
en fait, c'est dépenser un minimum d'énergie et acquérir un maximum. C'est un principe complètement naturel. Hein. N'importe quel animal va dépenser peu d'énergie pour en gagner plus.
Donc là, on voit plein de carottes.
Là, oui.
Voilà.
Là, potentiellement, t'as une tonne de carottes à venir.
Ah oui,
une tonne.
Là, ouais. D'accord.
Et là, on est sur une période où justement je vais en ressemer énormément. Là-bas, c'est préparé pour la carotte.
D'accord.
Et là, tous les paillages, ça va être de la carotte aussi.
D'accord. Enfin, bien ouais. Au fait, comment tu arroses au pchit, goutte à goutte, au tuyau d'arrosage?
J'arrose avec des gouttes à gouttes certaines cultures, avec de l'aspersion d'autres cultures. Donc j'ai une pompe. Qui pompe dans mon bassin
ouais.
Et qui me renvoie. Donc là, tu vois, il y a des tranchées qui sont là, justement, c'est pour enterrer l'irrigation.
Ah ouais,
des... Là, sous nos pieds, là, t'as un tuyau qui passe, qui arrive de la mare. Du coup, donc il y a cinq zones avec cinq grands espaces. Là, ouais. Tu vois, il n'y a que des oignons, par exemple, sur cette zone-là,
uh-huh.
qui sont en fin de culture. Là, ils sont en train de sécher.
Oui, ils jaunissent.
Les courges, là-bas, qui prennent un jardin complet.
Ouais.
Là, c'était un truc fourre-tout, diversifié. Donc, il y a eu du radis, il y a eu plein de salades au printemps. Il y a eu voilà, d'autres cultures. Là, il y a de la blette, il y a de la carotte. Il va y avoir à côté, à la place des radis, il va y avoir des carottes aussi. Et puis après, tu as cette zone où ça va être, en l'occurrence, là, je m'adapte comme ça pour cette année, c'est pas toujours comme ça, mais là, ça va être que de la carotte. Un peu plus loin derrière, on va voir qu'il y a des patates douces.
Patates douces, c'est pas... ça vient d'Afrique, non?
Oh, ça vient pas de Savignac, en fait.
c'est pas de la vallée du Dordogne.
C'est la première année que je cultive ça. J'ai mis un plant l'année dernière sous ma serre, j'ai eu plus de 12 kilos, du coup, ça m'a motivé.
Et ça se vend bien ou quoi?
Ouais, ça se vend super bien. J'ai des collègues qui en font depuis 3-4 ans, ils les vendent très très bien. Enfin, voilà.
Donc c'est ça, on dirait un peu des feuilles d'érable, ça reste au sol.
C'est une liane, c'est une hypomée.
D'accord.
C'est une hypomée. À côté, tu as des haricots verts. Tu as une série qui est plus en avance, qui est dans la serre.
Du pourpier, tu fais aussi?
Le pourpier, un régime crétois oblige.
Bah oui, il faut passer à sa ligne.
Voilà, donc on a des herbes abondamment.
Il y en a plein qui le mangent.
Bien sûr.
Dans le Maghreb, ça se mange ça.
Tout le pourtour méditerranéen, ouais.
Voilà, ça va bien.
Ouais. Ma mère adore ça.
Ah.
Moi, petite dose, c'est un peu acide, là, je sais pas.
Ouais.
Voilà, et là, c'est une zone au fond qui, cette année, n'est pas cultivée parce que, comme je suis à droite et à gauche, j'ai pas le temps d'y aller, de tout faire. Donc ça va être mis en engrais vert là.
Tu as déjà monté les structures d'un tunnel.
Ouais aussi. Ouais.
Mais il n'y a pas les bâches.
Non. Voilà. Je vais d'abord tout monter, j'achèterai les bâches d'un coup.
Ah.
J'achèterai les bâches à la fin de la saison quand j'aurai rentré assez d'argent.
Voilà.
Tout coûte tellement cher que.
De nos jours, attention hein. C'est pas facile.
Comme j'ai pas encore une multinationale, j'ai pas les crédits d'investissement hyper développés.
Ouais, il faut que tu te branches avec Bayer peut-être. Ils vont pouvoir te dépanner.
Donc,
voilà. Donc ta serre elle est vachement haute là, elle a 3,50
3,90
ouais. 3,90. Et là, qu'est-ce que c'est qui grimpant là? C'est des haricots.
C'est des haricots que j'avais fait très tôt et qui
haricots
sont
coco
finis. Non, haricots verts mais qui sont en train de grainer, là je laisse grainer.
D'accord.
Et j'ai fini de les récolter, j'ai fait une énorme récolte sur cette série d'haricots verts, c'est assez monstrueux.
Ah, ça a bien marché.
Très très bien marché, je les récolte depuis début avril jusqu'à la semaine dernière. Pas de maraîchage professionnel sans tunnel. Voilà, c'est pas compliqué, c'est une aide tellement précieuse pour recréer des conditions climatiques favorables à nos légumes, que ce soit en hiver comme en été.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en été, ma serre, là, elle est blanchie. Ouais. Du coup, j'ai un ombrage que je n'ai pas à l'extérieur. Donc, le blanchant souffre plus.
Elle a été blanchie pour pas trop morfler à cause du soleil.
Blanc horticole, voilà, exactement. Et d'accord. Du coup, tu arrives à avoir une température inférieure dans la serre à l'extérieur en plein soleil. Condition meilleure. Ouais. Pareil, on ne pense pas souvent, mais... Les tomates ou les concombres, un concombre c'est 80-85% d'humidité dans l'air pour vivre bien. Dans une serre en plein soleil ou dehors en plein soleil en été, il fait moins de 50% d'humidité.
Ouais.
Donc il n'est pas bien dans la serre. Ouais. On peut recréer de l'humidité en mettant de l'aspersion. Je regarde mon hygromètre et je remonte si j'ai envie.
Oui, je vois.
Les tomates, elles aiment 70%.
T'as des tuyaux donc qui courent un peu en hauteur.
Ouais, il y a deux lignes d'aspersion là et tout du goutte à goutte au pied.
C'est ça vit longtemps une serre comme ça?
Tant que le vent ne la couche pas ou la neige, ouais, ça vit longtemps.
D'accord.
Le plastique est à renouveler en théorie tous les 5 ans, on peut le faire traîner un peu 7-8 ans. Mais là, il a déjà pris la grêle au bout de sa troisième année, bien comme il faut, donc il ne durera pas 7 ans.
Ouais.
Ouais, l'important, c'est mine de rien, c'est ces massifs de vivaces là.
Ouais.
Là. Ouais. Que des fleurs qui ont une spécificité qui est liée en fait pour attirer des insectes auxiliaires, donc des insectes qui sont bénéfiques pour notre jardin.
Ouais.
Et cette année, ça marche très très bien puisque je n'ai pas de pucerons dans le jardin. Ils
d'accord.
se font démonter au fur et à mesure par tous leurs prédateurs naturels.
D'accord. Ok, ça n'attire pas que les pollinisateurs, mais
non,
aussi,
c'est un ensemble. C'est en général, bien sûr, tout ce qui fleurit attire du pollinisateur, certains plus que d'autres, parce que les plantes mellifères beaucoup plus.
Ouais.
Mais derrière, par exemple, cette.
Mais c'est quoi ça?
C'est une artémisia, une variété d'absinthe. Sa floraison, assez insignifiante, comme on dit, tu vois, rien d'extraordinaire par rapport à une gaillarde juste à côté, tu vois, qui pète à l'œil et tout. Là, la floraison a été. Faiblarde. Mmh. Elle n'a pas attiré beaucoup d'insectes pollinisateurs.
Mmh.
Par contre, elle attire énormément les pucerons.
D'accord.
Bon. J'ai acheté un petit bouquin l'année dernière. Ouais. Alors, je te dirai pas les noms encore et tout, mais je commence à
à t'intéresser à la coccinelle.
Bah, c'est pas que je... voilà, c'est compliqué, il y a tellement de choses à savoir. Bah
ouais, c'est ça, ouais,
entre
ouais.
les maladies, les ravageurs, les auxiliaires. Déjà, ouais. rien que les techniques de maraîchage elles-mêmes.
Ouais,
et tout,
ouais,
ça.
Ouais, ouais.
Ça fait que 10 ans que je fais ça, mon bon.
Mais non, ça...
J'en ai encore pour une vie ouais, ou deux.
C'est
hein,
ça. Et puis en plus, tu n'avais pas l'enseignement de l'ancien, par exemple.
Non, voilà. rien, non, non, j'ai appris.
T'es parti de zéro.
Dans les bouquins, avec quelques formations, avec et puis par, en faisant les erreurs aussi. Hein. Moi, j'ai aucun diplôme, j'ai rien.
Et t'as le droit d'exercer?
A priori.
Bah, écoute,
tant que je paye mes charges. Hein. C'est ça qui compte. Mais oui, bien sûr, j'ai le droit d'exercer.
Je sais pas, non, peut-être qu'il y a des boulots.
Il n'y a pas de diplôme obligatoire en agricole. Parce que de toute façon, si tu sais pas le faire, tu n'y arriveras pas, c'est tout. Et tu vas t'écrabouiller tout seul.
Voilà, et tu vas perdre du poids.
Donc, ça, c'est mes patates douces récoltées l'année dernière, tu vois.
Hello ! Oh, c'est un gros machin.
Oui, il y a là-bas.
C'est trop rigolo. Donc, ça.
Je les ai mises dans l'eau.
Ça ressemble à quoi ? Les espèces de gros concombres.
Non, ça, c'est du taro. Ça, c'est autre chose.
Alors, c'est une espèce de grosse patate.
C'est une patate, quoi.
Tu la laisses dans l'eau et ça repousse directement.
Ça, c'est ce qu'on récolte, qu'on consomme. Ça, c'est le poivrier de Sichuan.
Oui, mais je me suis piqué.
Et du coup, là, pour faire des boutures, j'ai mis ça dans la flotte. Ça me sort des lianes. Et là, j'ai tout rabattu et j'ai fait ce petit cutting, là. C'est...
Quelle est cette machine étrange ? On dirait... Alors, il y a une chaîne de vélo dessus.
Ouais.
Une espèce de guidon. On dirait une espèce de vélo ou trottinette. Qu'est-ce que
c'est la mobilette du maraîcher.
Ah, yes, la régalade.
Et le moteur, c'est moi.
Hein, le moteur, c'est toi. Ah bon ?
C'est un semoir.
Tu... Ah, un semoir.
Semoir de semoir.
Ah ouais,
de
tu fous tes graines dans cette espèce d'entonnoir là.
Voilà, et t'as un système de.
Et bim bam boum, tu peux voir tomber la.
Voilà, les semences ici, t'as des disques distributeurs de différents.
D'accord, selon la grosseur des graines.
Exactement.
D'accord.
Et tu fais des réglages avec tes pignons là.
Boudu.
Tu fais des réglages d'espacement en fait, sur le rang, c'est-à-dire que.
Ah.
Il y a des plateaux avec des nombres dedans.
D'accord, selon le pignon
là,
et le plateau que tu choisis.
Voilà, tu peux choisir 40 trous. 40 trous. Si je veux 1,9 cm entre chaque graine, je mets le pignon côté roue à 26 dents.
Ouais, celui-là,
le pignon côté bloc à 26 dents. Et je vais avoir des graines tous les 1,9 cm. Et donc du coup, par exemple, pour ce disque, j'ai tous ces réglages possibles.
Putain.
Il y en a une,
pardon,
une 25. Ça, c'est des sauges aussi différentes.
C'est
hein.
de la sauge, pourquoi ? Ça, les violettes et la blanche.
Ouais, la rouge aussi.
Et la rouge aussi.
Et celle-là aussi.
De la lavande, du romarin.
Avec ma réserve d'ortie, il y en a là, il y en a derrière, tout ça qui me. J'ai fait une première fois des purins cette année, là je vais faire une deuxième fois.
Tu chopes les graines et tu les ressèmes ou tu laisses faire tout seul ?
Elles se ressèment toutes seules.
D'accord.
Et là, si tu veux, je vais pas tout faucher, là, tu vois, elles sont en train de monter en graines.
Ouais.
Après, ça repart très bien du pied, hein, chaque année, c'est une vivace. Donc voilà, et là j'en ai de quoi faire 200-300 litres par an.
Le purin, il me semble, tu peux pas en faire si elles ont grainé ou si elles ont
fleuri. Là, c'est la limite, là. Tu peux, mais il est moins efficace.
Ah, tu as une piscine privative, je vois quand même.
Très content.
Je vois bien. Du beau plastique. Hein. Made in China.
Ça a une semaine et c'est déjà creusé.
C'est
hein.
déjà...
Alors, en même temps, au prix où je l'ai payé, j'avoue qu'il fallait un peu s'y attendre. Hein.
Un achat compulsif.
Exactement.
Ah, c'est
genre,
ça.
Les enfants, ils veulent se baigner. Mais...
Ils veulent se baigner. Mais t'as la rivière là-bas, putain.
Ah, une piscine.
C'est tellement luxe, la piscine.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligo. Mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futées. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie. J'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais me brûler la lippe, le tabac de la vache enragée. Dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai les pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume, en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi, dans mon cœur ni sur ma lippe, le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Le surnom d'infâme me va comme un gant, d'avec ma femme j'ai foutu le camp. parce que depuis tant d'années, c'était pas une sinécure de lui voir tout le temps le nez. Au milieu de la figure, je bats la campagne pour dénicher la nouvelle compagne, Valencelle-là. Qui bien sûr laissait beaucoup, trop de pierres dans les lentilles, mais se pendait à mon cou quand je perdais mes billes. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. J'avais une mansarde pour tout logement, avec des lézardes sur le firmament. Je le savais par cœur depuis, et pour un baiser la course, j'amenais mes belles de nuit faire un tour sur la grande ours. J'habite plus de mansarde, il peut désormais tomber des hallebardes. Je m'en bats l'œil, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi j'y paie des prunes. Y a 107 ans qui dit mieux, j'ai pas vu la lune. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Bonjour, Pierre-Yves Boinet, ouais. 38 ans. Mmh. Le reste, on l'a dit.
C'est déjà bon. Bon alors, donc tu es installé en maraîchage bio, oui. Certifié.
Tout à fait.
Visité régulièrement...
Par un contrôleur.
Par un contrôleur. Tu décrivais comme quelqu'un de fort sympathique.
Tout à fait. Ah. Mon contrôleur est le meilleur.
Voilà, c'est ça. Et non, donc, ouais. Tu m'as expliqué aussi que, auparavant, tu étais déjà dans les métiers de la terre, si je puis dire.
Oui. Horticulture, voilà. Pépinière et travaux paysagers, donc création et entretien de jardins, espaces verts.
D'accord. Donc, ouais. Tu proposais, grosso modo, de la verdure au milieu du béton.
C'est ça. C'est ça, et ça me plaisait beaucoup, jusqu'à ce que je me questionne pas mal sur le fait que on soit en agriculture chimique, du coup, dans cette manière de produire, en horticulture, en pépinière, et que je travaille pour des gens plutôt très riches, très aisés. Ouais. Et du coup, il y avait quelque chose, éthiquement, ça m'a perturbé, quoi. Ouais. J'avais envie aussi de fuir la ville aussi. Ouais. Clairement, je devenais allergique à l'ambiance urbaine. Je focalisais sur tous les bruits de la ville, les hélicoptères, les sirènes, les machins. J'étais dans un quartier populaire à Montpellier, donc c'était plutôt une ambiance générale, assez bruyante. Non, j'en pouvais plus, quoi.
Ouais. Et puis, tu disais aussi qu'à un moment donné, tu as eu un accident avec un produit chimique.
Avec un insecticide, du coup, la lance sous pression là, qui me servait à pulvériser le produit a cassé parce qu'elle était vieille. Et du coup, je me suis fait pulvériser le visage. J'ai eu le réflexe de fermer les yeux au bon moment, mais j'ai eu toute la peau brûlée au premier degré.
D'accord.
Voilà. Donc, du coup, dans la suite, j'ai plus jamais voulu repasser un produit phytochimique. J'ai passé du Roundup pendant des années, qui me coulait dans le dos, sans me rendre compte que c'était forcément. Enfin,
c'était de la merde.
Voilà, le patron me disait pas que c'était mal et moi j'avais 19-20 ans, je ne posais pas autant de questions qu'un peu plus tard.
Bah, ça vient avec le temps aussi.
Ça vient avec l'expérience, ça vient avec le temps, ça vient voilà. Ouais. Et puis du coup, j'ai monté mon entreprise de travaux paysagers à 23 ans qui s'appelait Alternative Paysage et qui proposait de la création et de l'entretien de jardin sans aucun phytochimique. Donc uniquement avec des phytos autorisés en bio, sans être pour le coup certifié. Et avant de me dire qu'en fait, même ça, je travaillais pour des gens qui avaient des 4x4 monstrueux, des énormes piscines à débordement et des maisons à 800 000 euros. Ouais. Et qu'il y avait quelque chose qui me gênait à nouveau. Et donc, cette envie d'un côté d'être plus dans la campagne, sachant que j'ai grandi jusqu'à 16 ans dans le Haut-Jura, enfin le Haut-Doubs, à 1000 mètres d'altitude avec des bousses de vaches au milieu de mon village. Donc, je connais le côté rural, je connais le côté urbain. Et j'ai fait mon choix à 28 ans de me dire, ben non, maintenant c'est terminé. Mmh. Et donc, j'ai décidé que j'allais devenir maraîcher bio, que ça avait beaucoup plus de sens tout en restant dans le milieu des plantes. Et à la campagne, bien sûr, pas rester en ville, quoi. Ouais. Et j'ai découvert Saint-Afrique complètement par hasard. Parce que j'ai pris ma voiture, je vais aller vers Gignac. J'ai vu les prix à Gignac et puis que c'était devenu hyper urbanisé. J'ai dit non, je vais aller plus loin. J'ai découvert le Larzac, j'ai dit pouh, c'est bien pour un week-end, mais c'est pelé, c'est sec. Je suis descendu dans la vallée de côté de Millau. Je vois, c'est une ville, quoi. Je fuis la ville, je retourne pas en ville. Je suis passé de l'autre côté du Larzac, j'ai découvert Saint-Af dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai passé un premier week-end et puis j'y suis revenu. 2012, on a acheté la maison et du coup, moi, j'ai retravaillé ici à partir de 2014, puisque avant, j'étais donc associé en GAEC. Voilà. Okay. Et donc, j'ai refusé de prendre des aides, j'ai refusé de faire un crédit. Le problème, c'est que j'ai compensé énormément avec mon temps de travail. J'ai compensé mon matériel absent, Franchement, je le préconise pas forcément. Hein. Je suis encore là, tant mieux, mais c'était pas gagné. Hein. Il y en a beaucoup, je pense, qui se seraient crachés. J'ai failli me cracher plusieurs fois. Ouais. Parce qu'on on s'y épuise tellement. Voilà, c'est... Ouais. Donc voilà, pas de problème financier aujourd'hui, parce qu'au bout de 10 ans d'expérience et 6-7 ans à Savignac, là, bah, j'ai investi. Au fur et à mesure que je vendais une salade à 1 euro, bah, je réinvestissais 7 euros dans un bout de plastoc qui me permet d'avancer, un bout de raccord d'irrigation, un petit bout de tunnel, un bout de quelque chose.
Tu as connu des années de vaches maigres ?
Ouh, de vaches mortes même.
Desséchées complètement.
J'ai travaillé 3 ans sans tunnel à Savignac.
D'accord.
Maraîcher professionnel sans tunnel en sud d'Aveyron, c'est un peu chaud quand même. J'avais pas d'eau, j'ai manqué d'eau. Heureusement, un voisin agriculteur m'a dépanné sur son tour d'eau pendant 3 saisons d'affilée avant qu'enfin je puisse faire les travaux. Travaux qui me coûtaient quand même plus de 10 000 euros. Pour aller chercher l'eau à la rivière. Voilà, et ça c'est un truc parmi tant d'autres investissements. Donc là, l'investissement en quelques années, il a été conséquent, mais je ne dois. Si, j'ai quelques crédits familiaux par contre. La famille qui m'a prêté assistance par des crédits à 0%, ouais, remboursables quand je pourrais. Ouais. Le banquier ne me proposait pas la même chose, du coup j'ai choisi le crédit familial. Voilà, donc effectivement, là par contre, j'essaie d'être là à honorer et que je ferai là. Dans les 2 années qui viennent, j'aurai les moyens de rembourser mes dettes et du coup d'avoir remis les compteurs à zéro. Et de, voilà. J'ai encore des investissements à faire.
Et pour parler plus ou moins du niveau de vie, entre guillemets, si jamais tu n'avais pas autant de boulot, tu pourrais partir en vacances par exemple ?
J'ai pas de, clairement, non, j'ai pas d'économie particulière de côté. J'ai pas de quoi aller me faire une semaine à la Grande Motte, en thalasso, voilà. Avec les enfants et en pension complète. Mais ça tombe bien parce que c'est pas particulièrement dans mes objectifs de vie, donc c'est pas un problème vraiment pour moi. C'est le métier d'une vie.
Et alors, est-ce que c'est un métier que tu conseillerais aux jeunes qui se cherchent, enfin, aux jeunes ou moins jeunes, aux gens qui se cherchent ou qui ont envie de se lancer là-dedans?
Oui, moi je peux que le conseiller. Je trouve ça, que c'est, voilà, comme je te dis, passionnant. C'est un métier où tu peux vivre 200 ans, tu feras jamais le tour. J'ai rien contre les plombiers, mais une fois que t'as appris la plomberie, au bout de 2 ans, t'es... Ça va, les tuyaux, c'est un peu toujours pareil, machin et tout. Avec tous les respects pour mon plombier, hein.
Ouais.
Vraiment.
Qui est très gentil d'ailleurs.
Très gentil, j'adore quand il vient me dépanner. Voilà, c'est pas ça, c'est pas une critique méchante ni rien du tout. Mais juste, c'est dans la complexité de ce métier et surtout le reste à connaître. C'est sans fin. C'est, ouais. Voilà, on est dans l'expérimental en fait en permanence, surtout qu'on est dans une modernisation de l'agriculture.
Le fait de revenir à d'anciennes pratiques peut-être, hein, ou de nouvelles techniques.
Ouais, d'anciennes pratiques qui sont finalement plus fructueuses et plus vertueuses que celles qu'on a depuis 70 ans. Ouais. Voilà, qu'on a changé, alors que l'agriculture c'est 12 à 15 000 ans d'histoire estimée, ouais, avec seulement 70 ans de pratiques. Et on voit aujourd'hui le bout, ouais, la fin de ces pratiques avec voilà, tout ce qui ne va pas, quoi. Ouais.
L'agriculture conventionnelle, elle s'appuie sur le fait qu'elle nourrisse le monde, et qu'elles ont plus ou moins aboli les famines. Et quand il s'agit, par exemple, en Europe, de reconstruire et de vite renourrir tout le monde, ils y sont arrivés, avec des techniques critiquables aujourd'hui, et du coup, ils s'appuient encore là-dessus, c'est-à-dire que grâce à la mécanisation et aux pesticides, engrais, chimiques, etc., ils ont évité les famines, tout le monde a eu à manger dans son assiette.
Moi, j'étais pas là pour le voir, donc ils peuvent raconter un peu ce qu'ils veulent, et pourquoi pas, c'est pas là pour moi, ce n'est pas le problème, c'est... Juste que ce genre de solution devait être une solution provisoire d'après-guerre, dans une Europe en reconstruction, ébranlée par la guerre, dévastée dans les cœurs, dans les chairs, dans les bâtiments, dans tout. J'ai beaucoup discuté de ces sujets avec mon grand-père, un de mes grands-pères qui est décédé il y a quelques années maintenant, mais qui était très imprégné de toute cette époque, et qui était à fond de la reconstruction européenne, de la paix entre les peuples, tout ça. Donc voilà, c'était une solution d'urgence post-guerre. Mais une solution provisoire. Après, il se trouve que certains intérêts ont fait que, et sûrement pas l'intérêt du plus grand nombre, ont fait que bah, c'est une solution provisoire qui est 70 ans plus tard et là plus active que jamais, avec bah, toutes les conséquences que ça a pu avoir sur les sols qui sont par endroits morts, pour beaucoup d'autres endroits inertes ou faiblement actifs. Voilà. On est sur la privatisation du vivant, je veux dire, qui n'est même pas camouflé aujourd'hui, hein. Depuis qu'Internet est arrivé, tout ça, il n'y a plus de camouflage possible vraiment en fait. D'ailleurs, alors on parle vite de théorie du complot, dès quelqu'un dit quelque chose, et puis voilà. Ouais. Au niveau de la productivité, je tiens quand même à dire quelque chose, c'est qu'il y a des fiches techniques, hein, faites par l'Interfel notamment, là, donc l'International des fruits et légumes, non, l'Interfédération des fruits et légumes, dont on est obligé de payer une contribution, nous, alors qu'ils ne financent que des... des gros groupes chimiques.
Ouais, d'accord.
Voilà, mais on n'a pas le choix, on doit payer quand même. C'est la c'est démocratie.
Pour avoir le droit d'exercer, tout simplement, ou...
On doit verser un pourcentage de notre chiffre d'affaires à cet organisme qui est censé être notre syndicat,
d'accord.
Qu'on n'a pas choisi, et que, ou un genre de syndicat, en tout cas de représentation de la profession, qu'on n'a pas choisi et qui finance uniquement, avec l'argent que nous, on participe à donner, qui finance uniquement les OGM, enfin les OGM, pas les OGM, forcément, je ne veux pas rentrer dans ce débat, mais les graines modernes
la
privatisées.
Culture intensive.
Voilà, et puis la graine, le hors-sol, la tomate hors-sol en Bretagne, enfin... sur les rendements, juste... Il faut calculer bien sûr un rapport qualité-prix, pas un produit qui se ressemble, genre une tomate rouge espagnole ou bretonne au supermarché, et une tomate rouge de pleine terre déjà. Aujourd'hui, je rappelle que sur le légume le plus consommé en France, c'est la tomate, et que seulement 10% des tomates consommées en France sont produites en pleine terre, soit 90% en hydroponie, avec 60% d'éléments nutritifs en moins du coup. Vous ne mangez plus, vous bouffez un bout de plastoc rouge qui va durer deux mois au frigo, mais qui n'a aucun goût et qui ne vous nourrit pas. Donc c'est stupide. Donc le rapport qualité-prix, il se trouve aussi que les fruits et légumes en conventionnel, le tarif a explosé depuis 3 ans, il augmente de 14-15% par an. Du coup, on se retrouve, nous, à un niveau de prix, en ayant peu augmenté, on augmente un peu tous les ans, parce que toutes nos charges augmentent un peu, notre terreau augmente, notre essence augmente, c'est comme tout le monde, quoi. Donc on augmente un peu en conséquence de nos charges qui augmentent, mais on, du coup, on arrive à un équilibre, où on se retrouve parfois moins cher que le conventionnel au marché, avec un produit récolté la veille, contrairement au conventionnel qui a souvent des produits qui ont une semaine, 10 jours de chambre froide, cueillis hors maturité. Donc j'habite à 5 km du centre-ville de Sainte-Afrique. Je fais le marché une fois par semaine le samedi matin, avec une clientèle qui est fidèle au bout de 10 ans de présence au marché de ma part, là, et qui est contente de mes produits, puisque en général vers 11h j'ai plus grand-chose. Donc c'est que voilà, il y a...
Que ça part bien.
Ouais, ça part plutôt bien. Et après, je travaille avec l'épicerie d'El País, donc l'épicerie qui est sur le boulevard Victor Hugo, qui est pareil, dans une éthique... qui me parle beaucoup, qui uniquement travaille avec des producteurs dans un rayon de 150 km, si je dis pas de bêtises. C'est une bonne équipe, pleine de convictions, qui est voilà, super chouette de travailler avec eux.
D'accord.
Et avec la Biocoop de Sainte-Afrique aussi, voilà, aussi en plus petite quantité, parce que je suis tout seul, pas à plein temps, et que je suis une petite unité de production. Mais voilà, à ma petite mesure, je produis quelques légumes pour la Biocoop aussi.
D'accord. Donc maintenant, attention, je vais faire appel à tes dons de vaudou marabout. À ton avis, l'agriculture, dans 20 ans, elle ressemblera à quoi ? Est-ce qu'on est sur, par exemple, toi, la voie que tu as choisie, elle te semble porteuse d'avenir ? Ou est-ce que ce dont on parlait, l'agriculture intensive, a encore de beaux jours devant elle ? Ou alors, est-ce qu'il y a peut-être une solution alternative qui pourrait débouler et changer l'agriculture ?
Alors moi, à titre personnel, je pense que la solution alternative, c'est ce que tous les acteurs de la bio sont en train de faire. Voilà, notamment les petites unités très productives qui sont dans la réflexion, l'optimisation et la mécanisation à minima. Du coup, une réduction énorme des coûts en carburant, les coûts pour l'entreprise et des coûts pour l'environnement que je fais ici. En allant livrer très proche de chez moi déjà, mon coût, ma charge carburant pour mon entreprise est diminuée de manière extraordinaire. Donc pour l'environnement aussi. En n'ayant qu'un motoculteur au lieu d'utiliser un grand tracteur, par contre en resserrant énormément mes cultures, je fais au mètre carré des rendements qui sont très importants. En agriculture bio, on te dit quand tu es mécanisé avec un tracteur et tout, par exemple une carotte à 4 kg par mètre carré, c'est le rendement. Moi je fais entre 8 et 12 kg par mètre carré. Donc finalement, mon terrain il est petit, mais si je fais 3 fois le rendement, c'est comme si je cultivais 1 hectare à 8, 3 fois 6. C'est bizarre. Et puis quand j'arrive à faire des fois, dans la serre, j'arrive à faire 5 cultures par an par planche. Au lieu de deux, en plein lieu de deux, en manière méthode classique. Donc à la fin, je suis beaucoup plus productif sur ma petite surface.
Ça use pas trop ta terre ? L'impact ?
Il suffit pas. Il faut prendre conscience de ce que tu fais et renourrir son sol en conséquence.
Alterner les
engrais verts, notamment du compost pour relancer les bactéries un peu dans tout ça aussi, de la paille pour relancer le côté champignons et tout ça. Moi, de toute façon, il faut que je relance cette dynamique de sol, ce que je fais depuis le début, et ça commence à porter ses fruits, mais j'ai encore vraiment du travail. Le principe des rotations des cultures, où tu vas réfléchir dans quel sens tu mets tes cultures, dans quel ordre, de manière à optimiser l'utilisation de la fertilisation, l'utilisation de l'eau, l'utilisation des résidus de la culture d'avant, qui eux redonnent de l'azote, tu vois, et ainsi de suite.
Mais nos enfants, dans 20 ans, à ton avis, ils mangeront... toujours des fruits et légumes comme nous, comme nos grands-parents, ou alors ils vont passer à la cuisine moléculaire, aux pilules, aux déshydratés, lyophilisés.
Pour moi, ce qui est évident, c'est qu'évidemment, il faut aller vers des systèmes de production modernes, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plus d'agriculteurs. Évidemment, les professions agricoles sont en chute libre. On va bientôt être en dessous des 400 000 exploitations agricoles en France pour 67 millions d'habitants, un truc comme ça. Voilà. Ça commence à être un peu ledge. Hein. Ouais. Il y a 50 ans, il y avait 1 million d'exploitations agricoles. Hein. Voilà, donc ça, c'est un vrai problème. Et ça, ça dépendra vraiment des décisions des politiques, des choix que vont faire nos représentants, les représentants du peuple, que ce soit au niveau des communes, des départements, des régions, de l'État et de l'Europe, bien sûr, qui aujourd'hui est quand même... c'est elle qui un peu articule tous ces pantins là dessous. Et si ces gens-là ne sont pas capables de prendre les décisions qui sont bonnes pour l'ensemble des gens et de la planète, alors dans 20 ans, ça peut être n'importe quoi et catastrophique. À l'inverse, si des gens, de plus en plus de personnes se disent « mais mon projet de vie, ça va être un projet de vie, ouais, vraiment, la vie, la bio », et qu'il y a de plus en plus de petits agriculteurs comme ça qui se développent et qui arrivent à mailler le territoire, on peut être une force d'opposition pleine de paix, hein, pleine de sans aucune animosité, juste de faire, de montrer qu'en fait on peut faire autrement et que ce soit les gens qui soient arbitres à un moment donné. Et en fait c'est la consommation. Quoi. Les gens ont compris qu'à chaque fois qu'ils donnent 1 euro à quelqu'un, s'ils réfléchissent comment il va être utilisé cet euro, ils peuvent changer la face du monde en une semaine. Quoi. Voilà, en utilisant l'arme moderne, l'économie. Ouais. Celle qui est instaurée pour nous dompter.
Celle qui a remplacé la politique d'ailleurs.
Ouais, exactement. Ouais. Est-ce que je suis acteur, est-ce que je suis spectateur de ma vie? Est-ce que si je vois, alors être spectateur quand tout va bien, pourquoi pas? Mais quand t'as l'impression que le monde s'écroule autour de toi de mille manières, sociales, écologiques et autres, et que tu te dis « Ah, je vais rester spectateur », moi, perso, bah, ça marche pas, quoi.
Ouais, t'as tout faux.
Non, moi, donc si tout le monde, en fait, c'est monsieur et madame tout le monde, de par leurs pièces qu'ils donnent, de par leurs choix de tous les jours, c'est ça, comme ça qu'en 20 ans, on peut changer la donne ou pas. Sur mes 10 ans d'expérience de vie à Sainte-Afrique et de maraîchage biologique à Sainte-Afrique, bah, je suis hyper content d'être là. Une bonne dynamique peut être bien sûr améliorée, on a toujours de l'amélioration à apporter, mais une super dynamique sur cette petite ville du sud d'Aveyron. J'ai été bien accueilli dans l'ensemble, je suis très content d'être là. Et au niveau du maraîchage et de l'agriculture bio en général, je vois un vrai essor en 10 ans. Un bel exemple en date, c'est mon voisin avec ses vaches laitières qui vient de passer en bio alors que rien n'indiquait que ça arriverait.
D'accord.
Et j'en suis ravi et je le félicite. Voilà, il y en a plein d'autres qui sont en train de se poser des questions et potentiellement Saint-Ave peut être un super exemple au niveau national et autres d'une accélération rapide des surfaces en bio, de la compréhension en fait de dire on a tous intérêt à cultiver autrement, à réfléchir autrement, à se remettre en question tout simplement pour être meilleur. Voilà.
Ben, merci Pierre.
Merci Francky.
Pierre, 38 ans, installé à Savignac depuis 2014.
Voilà, et puis merci beaucoup à Radio Sainte-Afrique.
Encore merci à Pierrot, autrement appelé The King of Darts, de nous avoir accueillis. Vous pouvez retrouver les paroles rurales en libre écoute sur le site de radiosaintafrique.com. Prochaine émission la semaine prochaine, même heure, même antenne.